Ce matin, je vais commencer un message, je ne pense pas pouvoir le finir, parce que je vais essayer de terminer à l'heure, qui est sur un thème, sur l'évangélisation. Hier, j'ai pu, non, c'était avant-hier, j'ai pu assister à la conférence qui a eu lieu sur l'exposition de Calvin. Cette conférence s'intitulait Pour en finir avec les idées reçues. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées sur lui. Il paraît qu'en une année, puisque cette année c'était l'année Calvin, 500 ans, l'anniversaire depuis sa mort, depuis sa naissance, il y a eu plus d'ouvrages qui ont été écrits en un an qu'en 500 ans. Ce qui fait qu'on connaît très peu, ou ce qu'on connaît de Calvin, on le connaît déformé. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à déformer parce qu'il y a des polémiques et des choses comme ça. Et donc on reçoit souvent des choses qui sont déformées. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pu être mises par rapport à la vérité de Calvin. Et c'était quelqu'un qui, tous les dimanches, prêchait à Genève. Il prêchait sur tous les livres de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, il n'a pas fait de commentaire sur l'Apocalypse, mais je pense qu'il a quand même dû en parler, parce qu'on a, on n'a pas tout, on n'a pas tous les sermons et tout. Et donc il prêchait la parole. Il était tellement soucieux de la parole qu'il savait, bien sûr, par l'histoire, que souvent les grands hommes, on les vénère, etc. Et souvent sur les tombes. Donc il a demandé à être jeté dans une fosse commune. C'est ce qu'on a fait. Donc on l'a mis dans un sac, on l'a jeté dans une fosse commune, qui n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Parce qu'il voulait que ce soit la parole qui reste après lui. Vous voyez, il était soucieux de la parole pour qu'on s'attache à la parole. C'est elle qui libère. C'est la parole de Dieu. Et donc nous voulons aussi, au travers de ce thème de l'évangélisation, nous appuyer sur la parole. Ce qui m'a inspiré aussi pour ce message, c'est bien sûr ce que le Seigneur nous a dit au travers des couples Verneau qu'on a eu dimanche dernier, et au travers des couples Gabriella et Junior. Et je pense que plusieurs ont vu la similitude de ces expériences, bien que n'ayant pas le même âge. Hein, les Verneau, ça fait plus de 50 ans, je crois, qu'ils sont en mission, hein, en gros. Et le couple qui vient de démarrer, hein, puisque en fait, il était de passage chez nous pour avoir les papiers pour le Mali, et il démarre une œuvre. Et pour ceux qui étaient là mercredi soir, tout le monde n'a pas pu venir, bien sûr. Mais ils nous ont montré quelques photos où au Mali, en fait, le pasteur, hein, qui vont aider dans son œuvre, en fait, et quand ils ont dit leur vocation, leur appel pour le Mali, non pas pour un an, 2 ans, mais pour des années et des années, vraiment pour toute leur vie, il a pleuré, parce qu'en fait, ça correspondait à ce qu'il attendait. Elle est médecin, lui est juriste, enfin, ils ont beaucoup de capacités qu'ils mettent au service du Seigneur pour aider cette œuvre au Mali. Et en fait, ils ont un terrain vague, et à partir de là, eh bien, ils ont la vision, hein, de faire un dispensaire, de faire des écoles, l'alphabétisation, etc. En fait, démarrer à partir de rien, mais ils comptent sur le Seigneur. Et ces deux couples, je crois, nous ont transmis une pensée, une orientation qui est aussi la nôtre depuis à peu près un an qu'on a ce désir d'aller dans l'évangélisation après avoir fondé l'Église. Eh bien, c'est aussi un exemple pour nous, et je voudrais qu'on puisse tirer quelques enseignements à partir de la parole pour rentrer dans notre appel. Dans Ézéchiel chapitre 3 verset 6, hein, nous on a un appel différent de l'Afrique. Et merci aussi pour les personnes d'origine africaine qui viennent nous aider, parce que c'est vrai qu'on a besoin de missionnaires en France, hein, et même l'Église réformée, il y a des gens de San Francisco qui viennent. On est un peu des parents pauvres en ce moment dans ce domaine-là, mais justement, on peut s'aider et on peut se soutenir. Mais la France n'est pas l'Afrique, au sens de la culture, au sens de l'approche des choses. Et Ézéchiel, il a reçu cet appel. Hein, en disant, ce n'est pas vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours, au contraire, si je t'envoyais vers cela, ils t'écouteraient. Mais c'est la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël est le front dur et le cœur obstiné. C'est vrai que notre pays a une histoire, hein, il faut en tenir compte. Moi, j'étais étonné que la Corée, dont vient Junot, en fait, ils connaissent le christianisme depuis 100, 150 ans à peu près, quoi. C'est très, très récent. Et donc, un pays qui connaît la culture chrétienne que depuis 150 ans, c'est vrai qu'il n'a pas la même approche. Enfin, les gens, enfin, la culture, les mentalités ne sont pas les mêmes que nous, ou en Gaule, christianisme a pénétré au 4e, 5e siècle, quoi. Et bien sûr, avec toutes les déviances qui, justement, font qu'il y a un rejet, tout au moins, du christianisme qui est assimilé au catholicisme, avec tout ce qui s'est passé dans les siècles. Donc, notre approche des gens ne peut pas être la même, puisque, a priori, il y a des présupposés. Et même les chrétiens, je suis sûr que moi j'étais le cas, on ne connaît pas, même pas Calvin. Alors qu'en fait, aux États-Unis, ils le connaissent. Il y a des rues Calvin, il y a des écoles Calvin, il y a Calvinobs, il y a tout un tas de choses qui. Et chez nous, on ne connaît pas. Pas. Alors que c'est un homme de Dieu qui a tellement marqué l'histoire chrétienne que bon, Luther a déposé les thèses de la réforme, mais Calvin a organisé l'Église, l'institution chrétienne. Et en France, on ne le connaît pas. Et même les chrétiens ne le connaissent pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'on pourra avoir l'exposition pour que vous puissiez, pas forcément l'ouvrir au public, mais que vous puissiez prendre connaissance de ce qu'il a fait. Et de cette manière-là, eh bien, nous avons besoin d'aller plus profondément dans le message, dans le thème de l'évangélisation. Parce que nous avons tous essayé de faire l'évangélisation classique, entre guillemets, par des programmes. Et on bute effectivement à contacter les gens parce qu'il y a un refus a priori lorsqu'on parle de l'évangile. Bon, à part certaines places comme Paris, où moi-même j'ai évangélisé pas mal de. Mais bon, en dehors de certaines places où il y a tellement de brassage culturel, on peut contacter les gens. Dans les autres endroits de notre pays, il faut une approche, disons, plus approfondie de l'évangélisation. C'est ce que j'aimerais vous partager dans ce message. C'est pareil, nous en 90, quand le Seigneur nous a donné ce local et cet endroit, on a voulu tout de suite commencer par l'évangélisation, sans vraiment s'occuper du contenu, comment dirais-je, du contenu des vases que nous sommes pour évangéliser. Et ne faisant pas ça, donc ne nous occupant pas des valeurs de chacun, nous avons démarré sur l'évangélisation. Et ça a été c'est catastrophique, voire frustrant, parce que les vies n'étaient pas en alignement avec la parole. Et quand on est dans un combat spirituel comme le nôtre dans notre pays, il faut que tout d'abord nos vies soient alignées sur la sainteté de Dieu, pour que eh bien, nous puissions aller avec ce message, non pas par nos lèvres, mais par toute notre vie, que nous soyons habités par la présence du Seigneur. Vous savez aussi que le droit français est fondé sur un État laïque, hein, sachant que le mot laïque, bien sûr, peut être interprété différemment, et chez nous, c'est du laïcisme, c'est-à-dire c'est une mobilisation sur le fait qu'on veut que ce soit tellement laïque que la notion de prêtre, hein, qui est justement assimilée aussi à l'Église catholique, on ne veut plus qu'elle soit dans l'espace public. Donc on le relègue à l'espace privé. Et donc on accepte, bien sûr, c'est pour ça qu'on n'est pas persécuté, on accepte dans la Constitution toutes les religions, mais qu'elles ne s'expriment pas sur la place publique. Et c'est pour ça que l'évangélisation tout de suite se heurte à ce droit, à cette volonté du peuple qui est que il ne soit pas proclamé de manière publique. Et donc là aussi, c'est un obstacle à l'évangélisation telle qu'on le conçoit habituellement. Alors je voudrais vous lire pour commencer Éphésiens 4 que vous connaissez, hein, au verset 11 et 12, qui est un peu le fondement du message que je vais vous apporter. Éphésiens 4, verset. Alors, on va lire à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du service ou de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà, on va essayer de comprendre bien ce passage à la lumière de ce titre, qui est déjà d'ailleurs un petit peu équivoque, hein, l'Église évangélise par sa vie. Ce titre qui paraît bizarre a pour but d'insister sur le fait que l'évangélisation n'est pas une activité que l'Église inscrit dans un programme, quelque chose qu'elle fait parmi d'autres choses. Mais que l'évangélisation est ce qu'elle est, hein, dans tous les aspects de sa vie, de son programme, de ses activités, pour le meilleur et pour le pire. Car l'Église, dans la pensée biblique, est une humanité rachetée par Dieu, une humanité nouvelle, une humanité qui est transformée par le Saint-Esprit, hein, de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont en Christ, et elle est composée de ceux qui sont enfants de Dieu. Donc elle est appelée. Donc c'est une humanité qui est appelée, hein, appelée hors du monde. Hein. C'est aussi le sens de l'Église, hors d'eux, hors du monde. Elle a une vocation, donc à être qualitativement différente de ce que le monde appelle un club, hein, où le club il s'unit autour d'un même thème, hein, le foot, le rugby, le bridge, etc. Donc elle est différente d'un club. Elle est différente d'une société ou d'un rassemblement créé par les hommes, hein, puisqu'ils s'unissent autour d'un thème, autour d'une idée, autour d'une activité. Elle est appelée. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien se rappeler. L'Église est appelée. Elle est une nouvelle humanité créée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et Dieu veut que cette communauté qui est appelée par lui, il veut qu'elle soit révolutionnaire, non pas au sens de remise en, disons de renverser l'ordre ancien pour en établir un autre, puisque de toute façon c'est l'ordre initial que Dieu a créé. C'est l'ancien ordre dans lequel se trouve le monde, c'est l'ordre de la chute. Mais l'humanité rachetée, c'est l'ordre tel que Dieu l'avait prévu de toute éternité. Et comme le dit René Padilla d'Amérique latine, il dit: nous ne sommes pas appelés à faire la révolution, mais à vivre une existence révolutionnaire au sein des institutions de ce monde. Disons, nous apparaissons comme des révolutionnaires, mais nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous vivons en refusant bien sûr de nous soumettre à ce que les institutions nous imposent dans la mesure où on ne s'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc nous sommes quelque part pour eux des révolutionnaires. Donc cette vocation, cet appel doit tenir compte des raisons d'être de l'Église, pourquoi l'Église existe, comme je le disais, une vocation, et des moyens que Dieu met à sa disposition. L'évangélisation, c'est utiliser les moyens que Dieu met à notre disposition. Non pas ce que nous imaginons comme être des moyens pour les utiliser, pour plaire au Seigneur, pour gagner des âmes, enfin tout ce qu'on veut, mais pour les moyens que Dieu met à notre disposition. Donc il faut bien écouter la parole, qu'est-ce que Dieu met à notre disposition. Donc les premières choses que nous voulons développer, c'est d'abord le sens. Hein, l'Église existe pourquoi? Elle est là tout d'abord pour glorifier Dieu, pour apporter la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui est le Créateur, ce n'est pas nous. Nous sommes des êtres créés et nous rendons gloire à Dieu. Donc ça, c'est une raison d'existence de l'Église. Ensuite, l'Église existe pour édifier les croyants, hein, nous l'avons vu ici, pour l'édification du corps de Christ. Le corps, c'est un organisme vivant. composée de personnes vivantes. Et il y a une édification du corps qui doit s'établir pour évangéliser, en vue d'évangéliser. L'évangélisation n'est pas un but en soi, c'est une conséquence pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, pour leur apporter la bonne nouvelle du message de l'Évangile. C'est dans cet ordre que ça se place. Donc sa première tâche, comme dirait la théologie, est doxologique, c'est-à-dire donner gloire à Dieu. Et les autres raisons de son existence doivent contribuer à cette première définition de la gloire de Dieu, que ce soit l'évangélisation qui contribue à la gloire de Dieu, ou que ce soit l'édification qui contribue à la gloire de Dieu. Donc avant d'aborder les thèmes des moyens, comment évangéliser, que Dieu met à la disposition de l'Église, il ne faut pas oublier que la première des choses qui est indispensable avant l'évangélisation, c'est la sainteté de Dieu. Cette sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est au cœur du message biblique. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu ne se mélange pas avec le mal. Justement, il a demandé à Adam et Ève de ne pas prendre du fruit qui va conduire au mal. Parce que le mal existe, mais Dieu n'en fait pas partie. Donc il est séparé du mal, il est saint, il est pur, la sainteté de Dieu. Et ce thème est très cher aussi donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, hein, je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais si vous prenez dans Philippiens 2 au chapitre 2, verset 15, nous voyons ce magnifique développement de l'apôtre Paul qui dit que eh bien, nous œuvrons à notre salut, nous travaillons notre salut, car c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et il dit, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle, alors écoutez bien, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. C'est la notion aussi de cette lumière qui doit être sous le boisseau, que Jésus donne comme image, etc. Nous sommes appelés à briller. Mais briller de quoi? Briller de notre gloire à nous? Briller de notre connaissance, briller de notre intelligence, briller de notre orgueil, ou briller de la gloire de Dieu. Donc vous voyez, la sainteté est le premier élément de l'évangélisation où nous devons être remplis de la sainteté de Dieu, qui est un élément principal de la gloire de Dieu qui rayonne parmi ce peuple corrompu et pervers, parmi ce monde qui va vers la corruption. Nous devons de plus en plus être le sel de la terre, ceux qui brillent comme des flambeaux. Et sans cette qualité de vie, qui doit établir une distinction, hein, entre le peuple de Dieu et le reste de la société, notre témoignage ne sera pas crédible, ne sera pas reçu. Et surtout dans un monde européen, occidental, français, où on cherche déjà la perfection, hein, déjà nous sommes très mal parti si nous voulons prêcher quelque chose d'à peu près. Mais c'est simplement parce que c'est une exigence de la parole de Dieu, hein, que d'être saint comme lui il est saint. Donc il n'est pas question de se perfectionner soi-même, hein, c'est question de laisser la gloire de Dieu se refléter en nous et sa sainteté se refléter en nous. Donc c'est une question d'être. L'évangélisation est d'abord une question d'être avant d'être une question de faire. Et d'ailleurs, cela nous amènera dans le repos du Seigneur. C'était le thème de la pastorale Foursquare où on était, d'être dans le repos de nos œuvres, repos du Seigneur. Alors, l'Église évangélise par sa vie. J'essaie de développer ce thème en m'appuyant d'ailleurs sur la vision qu'on vient de compléter avec les valeurs qui vont beaucoup nous aider parce que la vision contient effectivement cet enseignement en lui-même. Alors comment évangéliser? Donc répondre à l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile de Christ, c'est la question qui se pose pour que nous puissions voir des hommes et des femmes, des jeunes, etc., dans notre génération, se tourner vers Christ et rentrer justement dans cette espérance qu'ils ont perdue, de plus avoir de but, de plus voir où le monde va, parce que nous, on sait où il va, et nous voulons partager cette bénédiction, cette espérance. Donc, est-ce que c'est avec des programmes, comme je vous l'ai dit, non. Est-ce que c'est par sa vie? Réponse oui, par sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des programmes d'évangélisation, mais ce n'est qu'une conséquence, ce n'est que certains moyens qui suivent, disons, notre vie. Et nous voulons nous appuyer sur la vision pour où nous avons déjà la réponse. La vision, c'est ça. Bon, je l'ai un petit peu tourné parce que c'est plus facile de mettre des noms dessus après. On a trois raisons d'être du peuple de Dieu. La première, c'est la vocation, hein, et c'est la vocation d'être en Christ. Nous sommes en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes dans nos propres forces, dans notre humanité, et là, nous pouvons faire des programmes d'évangélisation, nous pouvons faire tout ce qu'on veut. En fait, tout ce qu'on partagera, c'est notre humanité, notre limitation avec les gens, et ça se verra. Et bon, bien sûr, le Seigneur peut toujours faire des choses dans sa grâce, mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'être en Christ, d'être une nouvelle humanité, de vivre cette nouvelle humanité. C'est notre vocation et notre appel. Le deuxième sens que Dieu donne à notre vie, c'est de glorifier Dieu pour toujours. De glorifier Dieu ici-bas, bien sûr, pour l'éternité. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Parce que c'est de lui que nous vient la vie, c'est de lui que nous vient l'être, et Paul développe bien ce thème. Et nous avons une mission. Et cette mission, c'est de servir en tant que prêtre. Justement, c'est ce que la société française refuse, hein. Elle veut qu'il n'y ait que des laïcs. Or, nous ne sommes que des prêtres. Donc, vous voyez, déjà, il y a un gros hic à notre objectif, à notre façon de vivre, à notre façon de comprendre la société. Que des laïcs, donc on ne veut rien avoir avec Dieu, puisque le prêtre, par nature, est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Sur l'Église catholique, c'est compris autrement, mais c'est que nous sommes en train de servir Dieu par notre louange, servir Dieu par notre vie, servir Dieu. C'est le service pour Dieu et pour les hommes auxquels nous sommes appelés. C'est notre tâche, c'est notre raison d'être dans ce monde. Et c'est ce qui donne sens à nos vies, c'est d'être prêtre, d'être sacrificateur. Et donc, vous voyez, ça vient en confrontation directe avec la civilisation française qui, par rapport à l'Afrique, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout cette fondation qui se trouve dans les autres pays. Donc il faut bien voir qu'il y a une confrontation de puissance tout de suite dans notre vocation, hein, et dans notre mission. Notre mission, c'est de servir Dieu comme prêtre sous la direction du souverain sacrificateur qui est Christ, hein, qui lui est entré une fois dans le temple, mais nous sommes avec Christ. Lui, souverain sacrificateur, nous, sacrificateurs, avec lui, comme les Lévites l'étaient derrière Aaron. Alors, notre mission, je vous la rappelle, hein, qui est l'acrostiche F-I-R-E-S, hein, faire, qui nous donne les composantes de notre mission, hein, de prêtre. C'est tout d'abord faire des disciples, hein, c'est adorer Dieu seul, hein, et pas les idoles, hein, donc s'attacher à l'adoration, intercéder pour soutenir, eh bien, le peuple de Dieu dans le monde entier, dans les nations. C'est rassembler, hein, c'est évangéliser, et c'est le thème d'aujourd'hui, et c'est servir. Donc, vous voyez déjà, l'évangélisation, c'est une de nos missions. Alors, comment? Je vais m'attacher au évangéliser. Avec quels moyens? Eh bien, la réponse est avec nos valeurs, justement les valeurs qui sont dans notre vision. Et la valeur, ça renvoie à la notion de vie. Valeur qui vient de virtu, en latin, c'est une force virile, c'est une force intérieure qui permet à notre âme de saisir la vie de Dieu et de vivre dans notre nature, hein, en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vivifie notre âme. Donc c'est par notre vie par nos valeurs, hein, qui sont liées à la vie, c'est l'âme qui est transformée par l'esprit. C'est tout l'enseignement de Colin Urquhart, pour ceux qui étaient à la récollection, où lui, il expliquait ça avec des chaises, on peut l'expliquer avec des diagrammes, on peut l'expliquer avec des mots, peu importe. Mais c'est toute la compréhension que notre âme, qui est déchue, eh bien, elle va vers la mort, et elle a besoin de l'esprit de Dieu pour nous vivifier, pour nous donner des nouvelles valeurs, des nouvelles orientations dans notre impulsion de vie. Alors, il y a des valeurs individuelles et des valeurs d'église, des valeurs qui nous motivent en tant qu'individus, des valeurs qui nous motivent en tant que corps, parce que nous sommes tous destinés à vivre en corps. Nous sommes des êtres sociaux, comme on dit, hein. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment les uns des autres. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Dieu nous a fait comme ça. Nous sommes un corps. Et donc, il y a des valeurs individuelles et des valeurs d'église. Donc, ces valeurs, pour ceux qui n'étaient pas là, ce sera un peu nouveau, mais il y a trois types de valeurs, hein, qui touchent notre éthique, c'est-à-dire le choix du bien, du mal. Dieu nous a donner la liberté de choisir le bien et le mal, mais nous voulons choisir le bien. Et donc Dieu veut transformer notre éthique, notre manière de voir les choses pour choisir le bien. Il veut aussi nous donner une culture. La culture, c'est tout ce qui est la base des fondements de civilisation dans qui donne des idées reçues parce qu'on a toujours fait comme ça et nos parents, nos arrière-parents, etc., nous ont transmis certaines choses qui permettent de vivre par rapport à une compréhension des choses, alors qu'ils sont basés souvent sur l'expérience, souvent sur. C'est des bonnes choses, souvent. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de déviance dans les cultures, mais il y a aussi une culture du royaume de Dieu. Et nous, en tant qu'êtres régénérés en Christ, nous voulons suivre la culture du royaume de Dieu. Et donc, nous voulons être transformés par le royaume. Et l'ordre, souvent, on voit ça avec les préparations au mariage, hein, que la famille, c'est dans un ordre créationnel, c'est Dieu qui a créé la famille, il y a tout plein d'ordres qui permettent à la vie de s'exprimer tel que Dieu l'a voulu. Et non pas un ordre que nous on cherche, une façon d'agencer les choses ou les institutions ou notre société. Donc ces trois valeurs sont vues sur des thèmes différents. Donc les thèmes de valeurs individuelles, c'est l'adoration. Hein. Alors j'ai mis le grec en face qui est la koinonia. Koinonia en grec, ça veut dire, ça vient de commun, être en commun. Ça veut dire d'être la communion. C'est la communion. Communion avec Dieu et communion les uns les autres. Ça, c'est un mot qui revient tout le temps dans le Nouveau Testament. Il y a Alfred Kuhn qui a écrit un livre là-dessus. Communion les uns des autres. Donc, une des valeurs, c'est l'adoration vers Dieu et qui aussi touche à la communion les uns des autres, la communion dans le corps. Le service, qui est la diaconia. Diaconia, c'est le service. Hein, c'est de là que vient le mot diacre. Hein. Ça, c'est une valeur aussi qui, justement, vient de la prêtrise. Hein. Nous servons Dieu, nous servons les uns les autres. Nous sommes appelés à être serviteurs, comme Jésus lui-même a été serviteur parmi les serviteurs. Et la troisième grande famille de valeurs que nous développons, c'est le témoignage, le kérigme. Le kérigme, c'est la proclamation de la parole en grec. Le kérigme. Donc c'est le témoignage, mais c'est pas que la parole, on le verra, c'est notre vie tout entière qui doit être un témoignage. D'ailleurs, c'est un élément très important dans le combat spirituel, puisque nous voyons dans l'Apocalypse que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont le peuple de Dieu, eh bien, ils ont vaincu l'ennemi par quoi? Par deux choses. Par le témoignage et par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau qui nous couvre, c'est lui qui nous, des nouvelles créatures. Hein, donc le sang de l'agneau nous couvre, hein, couvre nos péchés, nos culpabilités. Satan ne peut plus nous attaquer puisque nous sommes couverts par l'agneau, nous sommes justifiés en Christ et par le témoignage. Par le témoignage, c'est un élément du combat spirituel et aussi dans l'évangélisation, comme nous allons le voir. Et il y a trois valeurs collectives, hein, donc qui se trouvent plutôt à gauche, hein, donc il y en a six au tout, valeurs collectives, qui sont également des éléments des valeurs fondamentales qui transforment, enfin qui transforment la société, c'est la famille, hein, qui a été instituée par Dieu lui-même. Donc la famille est une valeur fondamentale. L'Église, hein, qui est une famille spirituelle, hein, famille naturelle, famille spirituelle, qui est aussi instituée par Dieu lui-même et par Christ. Et enfin, l'organisation, en particulier la notion de leadership, enfin la manière d'organiser l'Église, la manière d'organiser nos activités personnelles et en groupe, c'est aussi une valeur. Donc, on va juste se contenter sur des valeurs, hein, où là j'ai mis les valeurs de base, pour dire que ce qui va nous aider la compréhension, comment évangéliser, c'est de nous appuyer sur le fondement des valeurs. Alors, la première valeur que nous allons voir, qui nous permet d'évangéliser par la vie, hein, c'est les valeurs individuelles et l'adoration. L'adoration ou la koinonia, hein, je pense que vous. Alors, il est un petit peu long, là. Voilà. Qui se trouve en haut à droite. La koinonia, la communion avec Dieu. L'apôtre Jean, vous le trouvez dans 1 Jean chapitre 1er verset 3, l'apôtre Jean affirme en disant: notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et le Fils. Notre koinonia, si vous voulez, est avec le Père et le Fils. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, c'est une participation à la vie même du Père, à la vie du Fils. Et grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, nous participons, cette koinonia, cette communion, nous fait participer à la vie de Dieu lui-même. Et là, nous touchons au cœur de l'Évangile, tel que Christ l'a exposé dans un discours sur le pain de vie, hein, vous avez en 6, où il dit: je suis le pain de vie, hein. Et là, il a choqué beaucoup les Juifs, puisque il a dit: si vous ne mangez ce pain, donc si vous me mangez, hein, c'était un peu une provocation, un peu comme si c'était, comme si, s'il fallait être, pardon, anthropophage, oui, hein, de le manger, alors que c'est une malédiction purement, vraiment, dans l'Ancien Testament. Donc il les a choqués en disant: il faut me manger, hein, voyez, parce qu'ils n'avaient pas le droit de boire le sang, etc. Et Jésus prend ce discours sur le pain de vie, aussi dans Jean 15, le cep et les sarments, pour montrer que la sève, hein, qui vient du cep rentre dans les sarments. Et donc c'est la vie de Dieu elle-même qui pénètre en nous en tant qu'enfant de Dieu. Au moment où Jésus promet l'Esprit Saint aux disciples, et qu'il parle de son œuvre qu'il va faire en eux, qu'ils ne seront pas seuls, qu'ils ne seront pas orphelins. Il dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 23: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Je répète, c'est très important ce que Jésus a dit. Il dit, en parlant à ses disciples de l'œuvre qui va se passer après sa mort, il dit: si quelqu'un m'aime, donc voyez-vous, l'amour, hein, par l'adoration, hein, de valeur de l'adoration, si quelqu'un m'aime, donc première chose, c'est aimer Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc déjà, c'est pas un amour qui est basé sur une impression. Bon, il est objectif. Sa parole, c'est l'écriture. Et donc l'amour de l'écriture aussi va dans le sens de l'adoration. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Voyez-vous, les deux conditions pour que le Père puisse nous aimer, c'est aimer Jésus, aimer sa parole. Nous viendrons vers lui. Voyez-vous, c'est nous viendrons vers lui, bien sûr, par le Saint-Esprit, puisqu'il a dit: restez là et je vous envoie le Saint-Esprit. Et nous ferons notre demeure chez lui. Le but de l'adoration, le but que Dieu a dans sa tête, c'est d'habiter au milieu des siens. C'était le but avec Israël, au travers de ce que Dieu a fait avec Moïse, où il a donné le tabernacle. Il a dit, je vais demeurer au milieu de vous. Et je vais vous allez me suivre, je vais vous devancer, vous ne serez pas tout seul. Voyez-vous, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Dieu veut habiter. Or, quand nous comprenons cet appel, cette destinée que nous avons, que Dieu veut habiter au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles, dans notre église, dans nos proximités. Quand Dieu veut habiter, eh bien nous avons une autre attitude vis-à-vis de ce Dieu-là, hein, que de le traiter comme un objet, comme un concept, comme tout un tas de parfois manières de faire hein, qui sont très légères par rapport à notre compréhension chrétienne. Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Et c'est lui qui veut faire l'œuvre d'évangélisation au milieu de nous. On pourrait donc définir le chrétien comme celui en qui habite Dieu, le Saint-Esprit, hein, et par là même, bien sûr, le Père et le Fils, puisqu'on ne peut pas les dissocier, ils sont un. Cette conception de nos relations avec le Seigneur est au cœur de l'évangile prêché par Paul. Que ce soit dans les Galates, chapitre 2, verset 20, ou dans Éphésiens 3, 17, ou Colossiens 1, 27, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou alors que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ou alors dans Colossiens, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez-vous, Christ en nous, ce n'est pas encore pleinement accompli. Nous allons vers un but qui est de tendre vers la gloire de Dieu pleinement réalisée. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Et alors, nous serons parfaitement dans la gloire. Mais le but, c'est que nous avons Christ en nous. Et dans la Nouvelle Jérusalem, comme vous savez, eh bien, il n'y aura plus de soleil. Parce que Christ sera le soleil de justice. Christ va remplacer toute la lumière qui va pâlir. Le soleil sera qu'un pâle reflet de la gloire de Christ. Et c'est à cela que nous tendons, c'est Christ en nous, Christ au milieu de nous, Christ avec nous, Christ au centre de toutes choses. L'union spirituelle est vitale avec Christ, hein, qui non seulement nous rend participants à sa vie, et d'ailleurs, c'est la vie éternelle. Si nous recevons Christ, nous avons la vie éternelle, puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus. Donc si nous avons Christ, nous avons la vie éternelle. C'est pour ça que quand on accepte Christ, on dit qu'on a la vie éternelle. C'est à cause de ça. Mais bien plus encore que la vie éternelle, nous avons Dieu qui place en nous ses ressources, qui met à notre disposition les ressources pour évangéliser. Les ressources pour faire. C'est pas nous, par nos forces, qui allons faire, c'est Dieu qui va nous donner les ressources. Et vous avez bien remarqué ça, je vous renvoie au témoignage ben, des Verneaux, des Rojas, des Rojas qui démarrent, bien sûr les Verneaux qui ont déjà une œuvre derrière eux. Mais on sent la même confiance, ou la même fiance, comme dirait Calvin, il parle de la fiance, cette confiance dans le Seigneur, cette confiance inébranlable, que malgré toutes les catastrophes qui peuvent être devant nous, hein, que ce soit, alors bon, on n'en est plus au microbe de la grippe H1, hein, là, on en est vraiment à des cataclysmes importants dans des pays comme le Mali ou le Congo, hein, eh bien, ils n'ont pas peur. Des gens qui n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils sont en Christ. Mais vous, cette assurance, cette confiance, cette détermination, ces choses qui, pour nous, qui sommes tellement dorlotés dans nos pays occidentaux, pris en charge par la sécurité sociale, et je ne crache pas dans la soupe en disant ça, hein, ce n'est pas ça. Mais je dis, on est tellement loin de cette confiance sereine parmi toutes les choses qui sont autour de nous, qui sont dans l'insécurité totale. Et on sent ces personnes-là confiantes, en disant que la meilleure place, c'est sur le front, parce que Dieu est avec nous, voyez-vous. Et c'est ça que nous devons, nous galérons un peu avec ça, parce que nous avons tellement habitués à cette confiance dans l'homme, que la confiance en Dieu, bon, on a du mal à s'en accaparer. Mais pourtant, c'est le base pour utiliser les ressources de Dieu. Alors bien sûr, nous puisons dans nos ressources pour évangéliser, et forcément, ça ne marche pas. Ça marche d'autant moins que ce que j'ai dit, que nous heurtons à une loi, enfin un droit de citoyen qui dit hein, non, pas ici, hein, vous ne parlez pas ici, etc. Donc à chaque fois qu'on utilise dans nos ressources humaines, eh bien, nous avons des frustrations, des échecs. Placer notre confiance en Dieu qui place lui ses ressources en nous. Il nous introduit dans une. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps. En dehors de la vie éternelle, autour des ressources, il nous place dans une destinée avec lui. C'est-à-dire que nous partageons le plan, les desseins, les plans merveilleux de Dieu. Il veut que nous le partagions avec lui, voyez-vous? Il ne veut pas un peu comme quelqu'un qui est égoïste dans son coin. Il nous fait participer à ses plans d'amour. Voyez, nous devenons participants au plan de Dieu. C'est extraordinaire. À ses pensées, à ses intérêts, à ses désirs. Nous participons au dessein que Dieu a pour l'humanité. Et un autre point qui est important, c'est que nous produisons des fruits de l'esprit. Donc nous devenons ressemblants à Christ par une transformation à son image. C'est-à-dire que nous rentrons dans un processus de transformation. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire nous sommes pas, non seulement nous n'allons pas vers la dégradation, hein, comme. Les hommes qui n'ont pas Christ, justement, ils sont hantés par la mort. Je sais que Mitterrand, il était hanté par la mort. Il faisait venir à la fin ses ministres, le ministre de la Santé, etc. Comment il s'appelle? Georgina Dufoy. Il l'appelait, parce qu'il était hanté, il avait peur de la mort, quoi. Donc vous voyez, vous pouvez avoir le pouvoir, vous pouvez avoir l'argent, comme l'a dit Olivier, tout ça, mais ça va vers la dégradation. Et nous allons de gloire en gloire, c'est extraordinaire. Nous avons un plan extraordinaire devant nous, voyez-vous, ça devrait nous enthousiasmer dans notre vie chrétienne. Et c'est ça, la vie que Dieu a mis en nous. Alors pourquoi insister sur ces vérités aussi évidentes, hein, ce que je vous dis, c'est évident, c'est élémentaire. Parce que ressembler au Christ, par la communion à sa vie, la koinonia, hein, on est dans cette valeur, hein, cette communion avec lui, c'est refléter quelque chose de sa beauté. Et c'est déjà évangéliser. Voyez-vous, quand je vous disais que l'évangélisation, c'est par sa vie, c'est quand nous vivons dans cette communion, cette koinonia avec Dieu, c'est évangéliser. C'est partager la beauté de Dieu dans notre existence même, dans ce que nous vivons, dans cette communion qui est un transfert de la vie de Dieu en nous, par la communion avec lui, nous évangélisons. Hello? Vous voyez? Que ce n'est pas faire, c'est être. On raconte qu'au cours de ces visites pastorales, le Sadhu Sundar Singh, il y en a qui connaissent le Sadhu Sundar Singh, levez la main. Donc il y en a très peu. Je vous invite, vous savez, moi c'était une lecture quand j'étais jeune chrétien, hein, donc il y a 40 ans. Hein, je dévorais les livres de Sadhu Sundar Singh, c'est extraordinaire. C'est une source d'inspiration de voir des hommes de foi de cette trempe. Il était au Tibet. Il évangélisait parfois à 3000, 3500, 4000 mètres d'altitude dans le froid et tout ça. Il se cachait dans les cavernes. Enfin, c'était là aussi un Vernot, un Rojas, des gens qui savaient qu'ils sont dans la main de Dieu et qu'ils n'avaient pas peur des éléments naturels. Ils étaient dans leur vocation, dans leur appel. Et il évangélisait au Tibet. Et cet homme était vraiment un témoignage extraordinaire, il faut lire ses livres. Et on raconte qu'un jour, il frappe à la porte d'un foyer hindou, très modeste, et une fillette, une petite fille, 6-7 ans, vient ouvrir, et il laissait le visiteur sur le seuil, et il allait rejoindre sa cousine, vous voyez, comme souvent ça se passe. Et puis, la maman lui dit, mais c'est qui? Elle dit, mais je sais pas. Je ne sais pas, mais à voir son visage, je pense qu'il pourrait être le Seigneur Jésus. Témoignage, évangélisation. Alors, Simplement parce qu'il rayonnait de cette koinonia, de cette communion avec Dieu. Quel puissant de témoignage, voyez-vous. On cherche des moyens d'évangéliser. Si vous avez un moyen comme ça, et il est à la portée de chacun d'entre nous. Hello? Vous le croyez? Le problème, c'est qu'on ne le croit pas. C'est qu'on ne le croit pas. Quand on croit à un objectif, vous savez, Christophe Colomb, je crois qu'il croyait, il y en a beaucoup qui croyaient, mais il croyait arriver au but et il a persévéré. Et le plus grave, c'est que quand dans un chrétien, on ne croit pas vraiment, au fond, à ce moment-là, on se décourage, on cherche d'autres moyens, on cherche d'autres sources, et forcément, on va être plus découragé, on va être encore plus à plat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les bons moyens. Le premier moyen d'évangéliser, c'est d'être en Christ. C'est la koinonia. C'est la communion avec Dieu. C'est l'adoration. C'est ce pourquoi on a été fait. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est pour recevoir sa vie. Si nous avons notre propre vie, on peut évangéliser, on peut aller à l'autre bout de la planète, on sera épuisé à la fin de notre vie. Et c'est beaucoup de témoignages comme ça. Vous prenez le témoignage d'Osborne. Vous prenez le témoignage de. Je ne me rappelle plus maintenant, c'est. Nom m'échappe, mais un nom très connu. C'est les gens qui sont partis en Inde, par exemple, enfin, c'est Osborne. Puis là-bas, ah oui, il y en a plusieurs qui ont perdu leur femme ou les enfants, etc. C'était une catastrophe, une catastrophe. Et il est revenu aux États-Unis. Il a dit, Seigneur, tu vois, c'est une catastrophe. Et là, ils ont cherché cette koinonia, cette communion avec Dieu. Ils sont allés au centre du cœur de Dieu. Et là, ils ont reçu le rappel, leur vocation, alors que c'était des très bons chrétiens au départ. Mais il leur fallait cette rencontre avec Dieu, cette adoration, cette communion, pour rentrer dans le ministère auquel ils sont appelés, pour ne pas agir avec leurs propres ressources, mais que quand ils prient par la foi, c'est vraiment par la foi, et c'est pas par l'intelligence, par l'intellect. Et que s'ils prient pour un malade, et nous on va dans ce sens-là, hein. Ce que les Verneaux nous ont raconté, ce que les Rojas ont vu, nous on va le vivre ici, au travers des équipes de ministère, on va reconstituer les équipes de ministère. On les a commencées hein, dans les années 90, mais pour les raisons, je ne vais pas me répéter 36 fois, on a été arrêtés. Mais les équipes de ministère, c'est quand on va vers les gens, on dit au nom de Jésus, reçois la guérison, et la guérison, ils la reçoivent, parce que nous transmettons la vie. Et quand les gens sont guéris, quand les gens sont délivrés, quand les gens sont transformés, eh bien, ils acceptent le Seigneur Jésus ou ils n'acceptent pas. Ça, c'est leur problème. Mais c'est la puissance de l'évangélisation par le témoignage. Nous en viendrons à la fin, la dernière valeur de témoignage. Mais la première chose, c'est que nous ne pouvons pas faire des équipes de ministère si nous ne croyons pas que la première valeur, c'est notre communion avec Dieu. Hello? Notre communion avec Dieu, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première valeur. Évangéliser par la vie que Dieu nous donne, que met en nous. La notion de koinonia, qui vient de commun, ne s'arrête pas là. Elle englobe aussi la notion de communication, communiquer, dans un dialogue individuel et collectif. Nous nous mettons à l'écoute de Dieu. Dieu communique avec nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam tous les jours. Il venait, il parlait, communiquait. Il y a une communication qui s'établit. Il faut que nous entendions la voix de Dieu. C'est la première chose des choses que Jack Efford nous a enseignées dans l'école pastorale. Il dit, apprenez, vous pasteurs, qui voulez être leader du peuple, apprenez à entendre la voix de Dieu. Écoutez. Il nous a expliqué comment lui, il écoute, comment on écoute la voix de Dieu. C'est une première des choses. Et moi, j'ai du mal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit et j'ai besoin vraiment d'apprendre à écouter plus en plus la voix de Dieu. La communication, c'est un dialogue individuel avec Dieu et collectif. L'Église a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et très souvent, il y a des problèmes dans l'Église. Pourquoi? Parce que chacun veut diriger, veut donner son avis, etc. Mais si nous écoutons tous ensemble la voix de Dieu, nous n'aurons qu'une seule voix. Dieu ne peut pas se contredire dans ce qu'il dit. Donc nous entendrons tous la voix du Saint-Esprit et ça provoque l'unité dans l'Église, que ce soit pour l'évangélisation ou pour d'autres choses. La communication. Nous nous mettons à l'écoute de Dieu qui nous parle par sa parole, la parole, et par le Saint-Esprit qui l'inspire, par le Saint-Esprit qui nous parle. Et nous lui répondons comment? Dieu nous parle, comment nous lui répondons? Par l'obéissance. Et ça, c'est revenu chez Vernon et Rojas, l'obéissance. Très souvent, nous sommes désobéissants parce que nous disons, oh oui, Seigneur, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, ça? Vous croyez que ce que le Seigneur dit, ça ne marche pas? Hein, on marche là sur un terrain glissant, là. Hein, quand on dit, oui, Seigneur, j'ai essayé, ça ne marche pas. Est-ce qu'on a vraiment essayé ce que Dieu nous a dit? Peut-être parce qu'on n'a pas bien écouté ou entendu. Mais si nous disons, si nous faisons ce que le Seigneur dit, ça marche. Pierre, il l'a vu. C'est quand il a écouté notre voix qu'il est tombé, mais sur sa parole, il a marché sur l'eau. Sur sa parole, il a jeté le filet. Hein. Et quand Jésus est dans la barque, eh bien, le filet se remplit, parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas sur notre parole. Et il faut que nous devenions des hommes et des femmes de foi et d'obéissance. Croire et obéir. Dieu nous parle, nous nous obéissons. Et si nous obéissons, nous sommes dans cette communication avec Dieu qui marche et qui est victorieuse. Et aussi, bien sûr, par la dépendance avec lui, par des actions de reconnaissance, de grâce, de louange, et suprêmement par l'adoration. La réponse suprême, c'est l'adoration. Parce que nous adorons Dieu, nous le glorifions, nous disons Seigneur, toi, tu as fait toutes choses. C'est pour ça que l'adoration doit être à la base du peuple de Dieu. Et vous l'avez compris, peut-être ce matin, il y a des problèmes techniques, Dieu nous voulait nous montrer qu'il ne faut pas nous appuyer sur la musique. La musique, c'est un à côté. Ça supporte, bien sûr, les paroles, ça supporte une dynamique, etc. Mais il faut que nous apprenions à adorer tels que nous sommes, sans compter sur les moyens. Sans compter sur les moyens. Et c'est dans cette puissance d'adoration que cette communion se développe et que le Seigneur peut nous parler, que nous pouvons obéir. Parce que dans l'adoration, c'est plus facile à obéir que dans nos pensées. Donc dans la mesure où l'Église vit cette communion-là, faite de participation à la vie de Christ, à une communication avec Dieu, c'est dans cette mesure-là qu'elle évangélise. Alors, vous me suivez? Elle évangélise. Puisqu'elle apporte la bonne nouvelle par l'adoration elle-même, par le vécu de cette communion avec Dieu, et que la vie de Christ, la vie de Dieu peut s'être exercée sur ceux à qui je m'adresse. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Alors? Il fonctionnait comme ça. Il passait du temps avec son père, il voyait ce que le père faisait et il faisait ce qu'il voyait faire au père. Et le Saint-Esprit, il a dit, le Saint-Esprit est venu, le royaume de Dieu est venu parmi vous, parce que le Saint-Esprit est venu et il atteste par ce que je fais. Je fais, je ne le fais pas de moi-même. Et les hommes de son temps, ils savaient que les malades ne pouvaient pas être guéris comme ça, que les démons ne pouvaient pas être chassés comme ça, il fallait une puissance supérieure. Et alors, bien sûr, ils cherchaient l'explication, il y en a qui l'attribuaient ceci, cela, mais Jésus l'attribue au Saint-Esprit. Il a dit, c'est par le Saint-Esprit que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et nous, le Seigneur, dans notre France, dans notre douce France, le Seigneur veut nous utiliser pour toucher les hommes et les femmes de cette génération, qui sont aussi malheureux qu'il y a des siècles passés, qui ne le savent pas, qui sont dans la perdition, qui sont dans le mensonge de Satan. Il veut nous utiliser, nous, non pas avec des moyens super d'évangélisation, hein, on cherche toujours des moyens plus importants pour convaincre, mais c'est dans cette simplicité de la communion avec Dieu. Ou si nous rayonnons de sa vie, eh bien les hommes et les femmes seront touchés, je vous l'assure, ils seront touchés. Ils seront touchés non pas par notre charisme, mais ils seront touchés par l'action du Saint-Esprit qui traverse, qui nous traverse parce que nous le laissons libre dans chacune de nos vies. Une communauté qui vit la joie de la communion avec le Seigneur évangélise à son insu, vous ne croyez pas? Il y a quelqu'un qui a dit, j'étais témoin de la manière dont Dieu peut révéler sa gloire et parler avec puissance en réponse directe à l'adoration. J'ai vu de grands intellectuels et des hommes du monde endurcis, et on parle d'un peuple endurci, fondre en larmes et amener au Christ par la puissance de la louange, de l'adoration et parfois même de l'absence de prédication. Il y en a qui ont lu l'histoire du réveil du Pays de Galles. Là aussi, très peu. C'est dommage, vous vous privez de richesses hein, qui édifient la foi. Le réveil du Pays de Galles a démarré donc au début du siècle par simplement des enfants, enfin des adolescents, des adolescentes, je crois, hein, bon, au départ, quelques jeunes filles, 17, 18 ans, et puis après un garçon, etc. Bon. Et c'est parti comme ça. Et le Saint-Esprit, je ne vous raconte pas l'histoire, hein. Il y a un libraire qui est là qui peut vous donner les livres en question, mais c'est très édifiant parce que c'est pas vieux, hein. C'est un des derniers réveils qu'on a connus puissamment en Europe, au Pays de Galles. Et le Saint-Esprit était tellement fort que à l'époque, ils ne faisaient pas les 35 heures, hein, je vous signale. Ils n'avaient pas de robots dans les usines. Et pour certains, au Pays de Galles, c'était des mineurs qui descendaient dans le puits de la mine, qui faisait 42, 45 degrés, avec des chevaux pour les tirer, etc. Enfin, je ne vous parle pas de l'horreur au niveau sanitaire et du travail. Et ce n'était pas 35 heures, c'était 70. Parfois, ils restaient dans les mines, ils dormaient, etc. Et ils rentraient peut-être parfois même pas toutes les semaines. Eh bien, ces hommes qui étaient touchés, des hommes rudes, était touché par le Saint-Esprit, alors que c'est pas venu par des grands prédicateurs, évangélistes ou qui que ce soit, c'est venu par le Saint-Esprit au travers de jeunes personnes. Et le Saint-Esprit soufflait au fond des mines. Il se dépêchait de terminer son travail pour aller dans les réunions. Ils allaient dans la réunion, et ils restaient toute la nuit dans la réunion, et ils redescendaient dans les mines. Tellement le Saint-Esprit était fort, ils ne pouvaient même pas prêcher. Ils ne pouvaient pas prêcher. Le Saint-Esprit était présent. C'était extraordinaire, cette communion avec Dieu, cette adoration de Dieu. Et l'assistance, il n'y avait pas de prêcheur. Parfois, il y en a quelqu'un qui se levait dans la salle et il apportait une parole par l'action du Saint-Esprit. Souvent des hommes incultes qui prenaient la parole. C'est l'action réelle du Saint-Esprit. Non pas sur nos forces, non pas sur notre intelligence, non pas sur nos capacités, sur les ressources que donne le Saint-Esprit. Et ça vivifie. Et ça vivifie un peuple où toute la société a été bouleversée. Ils ont dû fermer les bars, ils ont plus. Ils ont, ceux qui vendaient de l'alcool, ils étaient ruinés, ils ne vendaient plus de l'alcool. Ils chantaient dans les rues. C'est là qu'on a tous les hymnes extraordinaires qu'on a. Ils chantaient dans les rues. Vous chantiez, les chantiez dans les rues. Et vous savez, ce qui nous a fait beaucoup réjouir, Michel et moi, c'est à la fête protestante à Strasbourg. C'est la première fête de rassemblement depuis 500 ans, depuis la Réforme. Donc c'est quand même une première, il faut l'avouer. Et je pense que c'est quand même lié aux toutes ces années de prière, prier pour la France depuis 8 ans. Et là, on a vu, bon, le zénith était plein, nous on a été refoulés sur. Au dernier moment, ils ont dû, j'ai appris ça parce qu'ils n'avaient pas prévu le coup, mais bon, la ville de Strasbourg leur a donné le palais des congrès vite pour les ouvrir, et heureusement, parce qu'il était plein en quelques minutes, il était à nouveau plein, donc il y avait plus de 10 000. Et là, devant, quand on attendait, il y a quelqu'un dans la foule qui chante À toi la gloire. Et tout le monde l'a pris, tous les refrains jusqu'au bout, À toi la gloire. Vous voyez, comme dans la rivière de Pays de Galles. Chant dans la rue. Et ça, c'est un signe de la présence du Saint-Esprit. Il faut que nous continuions à désirer ça, désirer. Le chercher, bien sûr, il faut le chercher, mais le désirer. Dans nos cœurs, il faut un désir. La gloire de Dieu soit manifestée dans ce pays et d'être simplement des instruments. Simplement des instruments entre ses mains. Et ça suffit pour que le Seigneur puisse souffler son esprit. Nous devons souhaiter cette adoration authentique, sobre, vraie, profonde, virile, adulte, christocentrique, centrée sur Christ, parce qu'elle est instruite par l'Écriture sainte, qui est la vérité. Les paroles doivent être des paroles de vérité, c'est pour ça qu'on a donné ces consignes au conducteur de louange. Il faut que ce soit inspiré par le Saint-Esprit et pas par l'ego, moi je me sens bien, je me sens. Bon. Il y a certains cantiques qui ont des valeurs, mais c'est quand on adore, on se centre sur Christ et on glorifie Christ. Amen. Et que la musique et les paroles chantées soient une qualité, bien sûr, qui glorifie Dieu, mais ce n'est pas ça qui nous amène vers Dieu. Donc on peut distinguer quatre articulations entre adoration et évangélisation. Je vous propose quatre articulations. La première, c'est adorer en esprit et en vérité, c'est déjà évangéliser. Première articulation. C'est reconnaître, déclarer devant le monde que Dieu est saint, il est glorieux, il est digne d'être adoré. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de l'articulation, c'est adorer en esprit et en vérité conduit à l'évangélisation. Reconnaître la sainteté de Dieu nourrit le désir de faire connaître cette sainteté à d'autres et qu'à leur tour, ils reconnaissent et glorifient le Seigneur. Donc de faire des disciples. Cette sollicitude à l'égard des autres est une marque de l'adoration véritable. Parce que nous ne voulons pas l'adorer égoïstement, nous voulons partager ces privilèges avec d'autres. Troisième élément d'articulation entre les deux, c'est l'évangélisation conduit à l'adoration. Évangéliser conduit à l'adoration. Je me rappelle John Wimber, quand on allait dans ses campagnes, dans ses campagnes d'édification à Brighton, bien sûr, il avait toujours des histoires, parce qu'il allait dans le monde entier à l'époque, il allait en Australie, comme le lendemain il retournait en Angleterre, etc. Et il nous disait, quand il faisait ses équipes de ministère, et il disait, bon, lui, j'étais frappé, il a jamais, enfin je ne l'ai jamais vu imposer les mains à qui que ce soit, il était sur la plateforme, c'est tout, et c'est les équipes qui priaient, etc. Les équipes de laïcs, hein, c'était pas les pasteurs, etc. C'est les gens qui l'amenaient avec lui. Il emmenait toujours 200 personnes de son église avec lui pour voyager. Il disait, eux, ils imposaient les mains et les malades étaient guéris. Les gens sortaient des chaises roulantes, les morts ressuscitaient. Et une fois qu'ils avaient fini les réunions, 2-3 heures du matin, ils se racontaient, comme ils appelaient ça, des ghost stories. Mais c'est des Holy Ghost stories. Hein, des histoires que le Saint-Esprit faisait. Et voyez-vous, ça ramenait un dynamisme de voir Dieu être glorifié au milieu d'eux. Et ça fortifie la foi, ça nourrit la foi, ça nourrit l'adoration. L'évangélisation nourrit l'adoration. Car les fidèles louent ce Dieu qui attire à lui de nouveaux croyants et fait d'eux des adorateurs à leur tour. Et dernier point, j'arrête là-dessus, évangéliser, c'est adorer. Dans Romains chapitre 15, versets 16 à 18, et je termine là-dessus, excusez-moi d'être un peu long, Romains 15, 16. Il dit, verset 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Écoutez bien ceci. Paul dit, je bénis le Seigneur de ce qui m'a fais la grâce, fais le privilège d'être dans ce service pour lui, d'évangéliser. Parce qu'en évangélisant et que quand les âmes se donnent à lui, eh bien, j'apporte des offrandes agréables à Dieu. C'est-à-dire que c'est un sacrifice, c'est un service d'adoration. Ce sont des offrandes qui sont apportées à Dieu. Ces âmes qui sont sauvées, qui sont transformées par la puissance de l'évangile. Et donc, nous sommes des sacrificateurs. Dans l'évangélisation, nous sommes des sacrificateurs. Voyez-vous? C'est ça la définition que Paul donne à son ministère tel qu'il le conçoit. C'est-à-dire qu'il apporte à Dieu eh bien, ces personnes qui se donnent à lui. Et donc, c'est un service sacerdotal. Et ceux qui se convertissent deviennent un sacrifice sanctifié par le Saint-Esprit, offert à Dieu. De sorte que l'évangélisation ne peut jamais, 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 j'insiste là-dessus, être considérée comme une fin en soi. L'évangélisation n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'adoration. La fin en soi, c'est glorifier Dieu. Mais l'évangélisation est un moyen. Il faut utiliser, d'abord par notre vie, et on verra les autres valeurs qui définissent l'évangélisation comme étant dans nos vies, comme étant l'expression de nos vies.